Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى
لا يصلاها الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux, et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur, le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour amis auditeurs, ravi de vous retrouver en ce mercredi 16 mars 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, le président Raïssi souligne l'activation du corridor de transit nord-sud. La Russie accompagne toujours l'Iran pour parvenir à l'accord final à Vienne, affirme le chef de la diplomatie iranienne. Et puis, Téhéran soutient les efforts de l'Organisation de la coopération islamique pour lutter contre l'islamophobie. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président iranien Raïssi a mis l'accent à l'activation du corridor de transit nord-sud au cours du nouveau mandat présidentiel au Turkménistan. En réponse à l'appel téléphonique du président de l'Assemblée nationale du Turkménistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, mardi soir, le président Raïssi l'a félicité pour la tenue des élections présidentielles et l'a félicité pour Nowruz et a souligné la nécessité de développer les relations avec les pays d'Asie centrale, en particulier le Turkménistan. Se référant au développement des relations Téhéran-Ashgabat sous la présidence de Gurbanguly Berdimuhamedov, Raïssi a déclaré « La République islamique d'Iran a toujours voulu développer la coopération avec le Turkménistan dans les domaines de l'énergie, de la politique et de la sécurité et votre rôle dans la réalisation de ces objectifs est admirable. » Se référant à sa visite au Turkménistan et à sa rencontre avec le président du pays, le président a déclaré « Vous pouvez toujours compter sur une amitié sincère et à long terme avec la République islamique d'Iran. » Le président de l'Assemblée nationale turkmène a pour sa part remercié l'ayatollah Raïssi pour ses efforts visant à développer les relations bilatérales entre les deux pays. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est dit rassuré que la Russie reste à bord pour l'accord final à Vienne, excluant les rumeurs selon lesquelles Moscou pourrait entraver l'avancée des pourparlers. Réunion productive avec Lavrov sur les questions bilatérales, les pourparlers de Vienne, l'Ukraine, la Syrie, le Yémen et l'Afghanistan, a écrit dans un tweet après sa visite en Russie, mardi. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est dit rassuré que la Russie reste à bord pour l'accord final à Vienne, excluant les rumeurs selon lesquelles Moscou pourrait entraver l'avancée des pourparlers. Plus que jamais, la balle est dans le camp américain pour apporter les réponses nécessaires à une conclusion réussie des pourparlers, a poursuivi le haut diplomate iranien pour conclure son message sur Twitter. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a tenu une conférence de presse conjointe après sa rencontre avec son homologue russe Sergei Lavrov à Moscou mardi. Il a déclaré lors d'une conférence de presse que la Russie ne sera pas un obstacle à la conclusion d'un accord et qu'il n'y a aucun lien entre les développements en Ukraine et les pourparlers de Vienne. Sachez également que le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, en visite à Moscou, s'est entretenu au téléphone avec son homologue Wang Yi des derniers développements des pourparlers de Vienne sur le nucléaire iranien. Au cours de son entretien téléphonique, le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné l'importance de développer les relations avec la Chine. La promotion des liens avec la Chine fait partie des priorités de la politique étrangère du gouvernement iranien, a-t-il noté. Le très haut diplomate iranien a déclaré que si Washington commençait à être réaliste, un bon accord durable, favorable à toutes les parties, serait finalisé. Concernant la dernière situation des pourparlers de Vienne entre l'Iran et les 4+1 dans la capitale autrichienne, Hossein Amir Abdollahian a qualifié l'approche de la Chine de constructive. Amir Abdollahian a fait référence à ses entretiens avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et a déclaré que les deux hommes avaient discuté de diverses questions. Il doit également examiner un certain nombre d'autres questions comme la réunion d'Astana sur la Syrie, la situation au Yémen et la guerre en Ukraine avec eux. Pour sa part, son homologue chinois a déclaré qu'il n'y avait pas de limite au renforcement des relations Pékin-Téhéran, son pays attachant de l'importance à la coopération avec l'Iran. Il a également remercié le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran d'avoir accepté l'invitation à assister à la réunion des pays voisins de l'Afghanistan. Concernant toujours les pourparlers de Vienne, Wang Yi a exprimé le soutien total de Pékin au processus de négociation. Les parties du JCPOA sont sur le point de parvenir à un accord, affirme le directeur général de l'AIOA. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré que les parties au JCPOA, l'accord nucléaire de 2015, étaient sur le point de parvenir à un accord. M. Grossi, qui s'est adressé à France 24 depuis le siège de l'agence onusienne à Vienne, a également salué la déclaration du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à son homologue iranien mardi 15 mars, selon laquelle un accord était en préparation. Raphaël Grossi a déclaré que la communauté internationale avait désormais une voie à suivre avec l'Iran. L'Iran soutient les efforts de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, pour lutter contre l'islamophobie. L'ambassadeur d'Iran aux Nations Unies a déclaré que le pays soutenait les efforts de l'OCI dans la lutte contre l'islamophobie. S'exprimant à l'Assemblée générale des Nations Unies après que l'organe a voté contre l'islamophobie, l'envoyé iranien a déclaré qu'en marquant cette occasion, nous pouvons générer une meilleure compréhension de l'islam et des principes islamiques. La résolution prouve notre détermination à affronter de manière efficace et constructive l'islamophobie comme l'un des principaux défis auxquels est confrontée la communauté internationale. Tartravanchi a exhorté tous les membres de l'ONU à assumer leurs responsabilités et leurs engagements juridiques à cet égard, contribuant ainsi à la promotion des valeurs communes, de la coexistence pacifique, de la tolérance et de la compréhension mutuelle dans le monde entier. Au cours des dernières décennies, l'agitation anti-islamique et anti-musulmane a été renforcée de manière chronique par certains médias, politiciens, influenceurs, ainsi que par les discours universitaires, a-t-il noté. Il est très important que les membres de l'ONU adoptent une position unifiée face aux cas d'islamophobie tels que l'interdiction de voyager contre les musulmans, l'interdiction du hijab, l'interdiction des symboles musulmans et l'application de termes aussi méprisables et ignorants tels que terrorisme islamique, a déclaré l'ambassadeur. Nous sommes convaincus que le terrorisme, sous toutes ses formes et représentations, ne peut et ne doit être attribué à aucune religion, nationalité, civilisation ou groupe ethnique, a-t-il conclu. Enfin, la peine de condamnation de Nazanin Zohrari prend fin. Les avocats de Nazanin Zohrari ont annoncé mardi que son passeport britannique lui avait été délivré, mais la date exacte de son départ d'Iran n'est pas encore claire. Hojat Germani a déclaré à l'IRNA mardi soir qu'il espérait que Zohrari serait bientôt autorisé à quitter l'Iran, réitérant que sa peine d'emprisonnement pour l'un de ses dossiers s'était terminée en mars 2021. Certains médias occidentaux ont commencé à diffuser des informations dès mardi matin pour lier la liberté de Zohrari au progrès réalisé dans les négociations Iran-Grande-Bretagne sur l'effacement de l'ancienne dette britannique de 400 millions de livres à l'Iran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, avait déjà souligné que la dette britannique envers l'Iran était fixe et définitive et qu'elle augmenterait même avec l'OTAN en raison du retard du gouvernement britannique à la rembourser. Nazanin Zohrari était en charge des activités de mise en réseau du MI6 et du ministère britannique des Affaires étrangères en Asie du Sud-Ouest et en Afrique du Nord, où elle a joué un rôle actif dans les réseaux d'espionnage sous couvert d'être journaliste et dans la formation de révolution de velours. Elle a été arrêtée à l'aéroport en quittant Téhéran en avril 2016 pour des raisons de sécurité. Elle a ensuite été condamnée à 5 ans de prison pour espionnage. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Iran, Russie, Chine, premier conseil de guerre. 48 heures après la frappe anti-israélienne à Erbil, le ministre iranien des Affaires étrangères se trouve à Moscou, qui, à J+20 de la guerre en Ukraine, continue à exiger un démantèlement de l'OTAN à ses portes. Or, la Chine n'était pas absente de ce conseil de guerre contre l'Empire. En tête d'une délégation, le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé il y a quelques heures à Moscou afin de rencontrer les responsables et son homologue russe Sergueï Lavrov pour discuter des relations bilatérales et régionales et les questions internationales. En tête d'une délégation, le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé mardi à Moscou afin de rencontrer les responsables et son homologue russe Sergueï Lavrov pour discuter des relations bilatérales et régionales et les questions internationales. Le haut diplomate iranien a souligné qu'aucun facteur étranger ou quel que soit le résultat des négociations à Vienne ne pouvait empêcher le processus du développement des relations de l'Iran avec la Russie ou d'autres pays. Amir Abdollahian a décrit constructive l'approche de la Russie au cours des 11 derniers mois de pourparlers de Vienne et s'est dit convaincu que cette approche se poursuivra jusqu'à ce qu'un bon accord crédible soit conclu. C'est dans ce contexte que l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Pékin a également fait état de la conversation téléphonique concernant les questions de pourparlers de Vienne entre Hossein Amir Abdollahian et son homologue chinois Wang Yi. Lors de cette conversation téléphonique, était auparavant planifiée et a eu lieu depuis Moscou en raison de sa coïncidence avec la visite d'Amir Abdollahian en Russie. Évoquant la nécessité de mettre en œuvre les accords conclus lors de la récente rencontre du président iranien avec son homologue russe à Moscou, Lavrov a souligné la volonté de la Russie de développer la coopération avec l'Iran dans tous les domaines, en particulier dans le secteur économique. Je voudrais déclarer ici que la Russie ne posera aucun obstacle à la conclusion d'un accord et qu'il n'y aura aucun lien entre les développements en Ukraine et les négociations de Vienne, a déclaré Amir Abdollahian. Le ministre russe des Affaires étrangères a souligné le plein soutien de la Russie à la finalisation de l'accord de Vienne, soulignant que la Russie ne s'y opposerait pas contrairement aux allégations américaines et maintiendrait une approche constructive jusqu'à la fin des pourparlers de Vienne. Par ailleurs, un haut responsable américain a également déclaré mardi 15 mars que les nouvelles sanctions américaines contre la Russie ne comprenaient pas la participation russe au projet nucléaire iranien. Lavrov a déclaré que Moscou avait reçu des garanties écrites des États-Unis que les nouvelles sanctions américaines anti-russes n'entraveraient pas la coopération entre les deux pays, dans le cadre de l'accord avec l'Iran, y compris la coopération concernant le projet principal de la centrale électrique de Bouchehr. En recourant des allégations sans fondement, les États-Unis tentent d'accuser la Russie d'avoir perturbé le processus des pourparlers de Vienne, alors que certaines parties, à l'exception de la Russie, n'ont pas encore confirmé l'accord nucléaire, a déclaré Lavrov.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Selon le quotidien américain Wall Street Journal, les dirigeants de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis ont refusé d'organiser ces dernières semaines des appels avec le président américain Joe Biden, le président américain qui voulait, toujours selon ce quotidien, demander aux dirigeants de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis pour ouvrir le robinet de leur pétrole afin de contenir, si vous voulez, la flambée des prix du pétrole sur les marchés mondiaux du fait, en fait, de cette opération militaire de la Russie en Ukraine. Ben, comment peut-on expliquer ce refus, si vous voulez, des dirigeants de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, d'autant plus qu'il y a eu ensuite une autre information qui est tombée, comme quoi, en fait, les Émirats Arabes Unis s'étaient pliés, si vous voulez, à cette exigence côté de Washington pour, en fait, augmenter la production de son pétrole. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre, et de regarder, d'écouter un court reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après.
La position des pays arabes de l'Asie de l'Ouest, comme les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, qui sont les principaux alliés de Washington dans la région, envers la crise ukrainienne, pourrait être significative. Alors que les États-Unis s'attendaient à ce que les pays arabes se rangent du côté des États-Unis dans le conflit russo-ukrainien et soutiennent leurs actions contre la Russie, Abu Dhabi et Riyad, ainsi que d'autres pays du Golfe Persique, ont d'abord tenté de faire preuve de neutralité, mais il s'est avéré plus tard qu'ils ont plus tendance à soutenir la Russie dans son opération militaire contre l'Ukraine. Les Émirats Arabes Unis ont été l'un des pays qui, avec la Chine et l'Inde, se sont abstenus de voter lors du vote du Conseil de sécurité sur un projet de résolution américain appelant au retrait des troupes russes d'Ukraine. D'autre part, alors que les prix du pétrole sur le marché mondial continuent de grimper en raison des sanctions américaines contre la Russie, les États-Unis ont appelé à une augmentation de la production pétrolière saoudienne, mais le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, dirigeant de facto de l'Arabie Saoudite, a déclaré lors d'un entretien téléphonique la semaine dernière avec le président français Emmanuel Macron que son pays était attaché à l'accord OPEP, plus avec la Russie, et fournira progressivement du pétrole brut au marché. Alors que les économistes prédisent que le prix du pétrole pourrait grimper jusqu'à 300 dollars le baril à la suite de la crise ukrainienne et des sanctions américaines contre la Russie, l'accent mis par l'Arabie Saoudite sur l'accord OPEP pourrait être un désastre économique pour l'Europe et les États-Unis. De même, Mohammed bin Salman, qui n'est pas satisfait du comportement de la nouvelle administration américaine dirigée par Joe Biden contre l'Arabie Saoudite et la personne de MBS, dans une interview au magazine américain The Atlantic, il a pris une position sans précédent contre Biden et a dit qu'il se fichait que Biden l'ignore. En plus, ces dernières années, Washington a commencé à limiter son engagement militaire dans la région, même au moment où ses alliés les plus proches, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ont été ciblés par des frappes de représailles d'Ansar Allah. À vrai dire, les pays arabes du Golfe Persique sont arrivés à cette conclusion que, premièrement, l'influence et le rôle américain en Asie de l'Ouest sont en déclin. Deuxièmement, ils ont évalué l'attitude des États-Unis envers l'Ukraine et sont arrivés à la conclusion que les États-Unis ne soutiennent fondamentalement pas leurs alliés en cas d'urgence.
Merci, merci infiniment d'avoir choisi cette émission des débats. Et j'ai avec moi pour cette émission depuis Moscou un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Fabrice Beurre. M. Beurre, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous.
Et j'ai également avec moi pour cette émission depuis Paris ou Damas. Je ne sais pas si c'est Paris ou Damas.
Paris.
C'est depuis Paris, une analyste franco-syrienne, Madame Aïssa Midani. Madame Midani, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous et bonjour à vous, à votre équipe et à votre invité. Bonjour.
Merci. Madame Midani, première question, comment expliquez-vous en fait ce qui se passe actuellement entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les États-Unis, si vous voulez, d'Amérique, de plus précisément Joe Biden, s'il vous plaît?
Alors, je crois et je l'espère que les Émirats arabes unis avec l'Arabie saoudite commencent à comprendre effectivement le rôle des États-Unis par rapport à leurs alliés et par rapport à leurs alliés, entre guillemets. Ils demandent quand même, ils voient quand même que depuis le retrait de l'Afghanistan, la manière dont ils ont jeté leurs alliés afghans, la situation par rapport à l'Ukraine, la manière dont ils ont attisé la guerre aussi en poussant Zelensky et puis l'Union européenne aussi à attiser le conflit et à aller en guerre contre la Russie, et la manière dont ils ont été délaissés en fait, hein, où il y a effectivement des déclarations claires et nettes que les États-Unis n'iront pas combattre à la place de leurs alliés. La manière aussi dont ils poussent les sanctions, en fait, ils poussent l'Union européenne dans des sanctions qui vont mettre effectivement à genoux l'Union européenne, qui vont affamer le peuple de l'Union, tous les peuples de l'Europe, en fait, à commencer par l'Allemagne et la France, en fait, les affamer dans un sens où interdiction du gaz et puis de l'énergie, de toutes les forces d'énergie. On sait que ça agit complètement en direct déjà sur les possibilités de chauffage et de l'industrie, et d'un autre côté aussi sur les possibilités d'approvisionnement, ce qui fait que effectivement ils sont en train de les pousser à la famine, je dirais, et surtout pousser l'économie à une grave crise économique de l'Europe. Donc en fait, j'espère qu'ils ont compris que les États-Unis combattent avec le sang des autres, hein, et qu'aujourd'hui, en poussant effectivement, en voulant pousser l'Arabie saoudite à augmenter la production du pétrole, c'est aussi pour continuer à attiser la guerre contre la Russie et éviter et trouver une alternative pour l'Europe au niveau du pétrole et de l'énergie. Je pense que Mohammed bin Salman essentiellement a compris ceci, surtout que Biden, depuis qu'il était élu, ils sont en train aussi de manier vis-à-vis du pouvoir saoudien à la fois comment dire, je dirais la carotte et le bâton, pour aussi leur soutirer le maximum d'argent, mais aussi d'un autre côté agiter le bâton de l'assassinat de Khashoggi, etc. Donc en fait, ils maintiennent la pression contre l'État saoudien pour le garder à leur botte, en fait, et pas du tout en tant qu'allié. Je pense que aussi les Émirats ont compris. Dernier point, je voudrais dire aussi que d'un autre côté, alors que les Américains affichent aussi une volonté de retourner à l'accord sur le nucléaire, dont ils sont sortis de manière complètement illégale, etc., et qu'en même temps, ils continuent à vouloir attiser les contradictions entre l'Iran et l'Arabie saoudite, chose que l'Arabie saoudite a surmontée. Et aujourd'hui, il y a eu plusieurs rencontres avec l'Iran pour comprendre quand même que, j'espère qu'ils sont sur la voie de la compréhension, que l'Iran n'est pas un ennemi, mais c'est un ennemi qui était inventé par l'Occident. Et qu'aujourd'hui, l'intérêt de tous les pays de la région, c'est de faire une complémentarité économique et d'être tous du même côté, mais du côté des peuples et du côté surtout du respect de la souveraineté des pays et de leur indépendance.
Monsieur Beurre, vous avez en fait entendu Madame Midani, qui espère voir les dirigeants de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis de se rendre à l'évidence, se rendre compte que voilà, les États-Unis combattent avec le sang des autres. Autrement dit, que les États-Unis ne sont pas, absolument pas, si vous voulez, de fiables, et abandonnent si leurs intérêts l'exigent, leurs alliés les plus proches. Votre analyse, s'il vous plaît.
Oui, c'est une évidence que la manière de faire de l'impérialisme américain, c'est une évidence qu'elle apparaît aujourd'hui de plus en plus aux dirigeants du monde, pour la simple bonne raison que, comme il a été dit auparavant et justement, les États-Unis, on le voit aujourd'hui en particulier avec ce qui se passe sur le dossier ukrainien, les États-Unis se battent avec le sang des autres. Je prendrai un exemple et je vais revenir d'une manière plus globale en répondant à votre question. Les Américains, après que les Russes aient détruit l'essentiel de l'aviation ukrainienne, ils ne veulent pas évidemment faire une no-fly zone, parce que ce serait mettre les pieds dans un engrenage dans lequel ils ne veulent pas. Et ils avaient comme idée d'envoyer des vieux avions que pouvait encore avoir la Pologne ou la Roumanie, la Slovaquie. Alors ces deux derniers pays ont dit non, il restait des avions polonais. Les Polonais ont dit ouais, on veut bien, mais au début c'était non. Et puis après il y a dû avoir une pression américaine. Ils ont dit ok, alors on vous les donne sur la base de Ramstein en Allemagne. C'est vous qui allez les donner directement, les Américains, à l'Ukraine. Et les Américains évidemment ont dit ah non, pas nous. C'est une preuve qu'ils veulent se battre pour l'Ukraine jusqu'à la dernière goutte de sang d'un soldat européen, ukrainien dans le cas précis, et européen. Donc on a bien une situation qui démontre la duplicité américaine qui est visible. Il n'y a que les aveugles ou les fanatiques qui ne peuvent pas les voir. Et en ce qui concerne la non-réponse de l'OPEP+, en ce qui concerne l'augmentation du baril, c'est pas que, enfin l'augmentation de la production pour baisser les prix, ça sous-entendrait qu'ils viendraient à la rescousse des sociétés occidentales pour continuer la pression et la guerre qu'ils mènent contre la Russie, et pour se retrouver après avec, donc si la Russie s'effondrerait, il n'y aurait plus à ce moment-là que le monde occidental, et ils savent très bien que le monde occidental les considère pour simplement des bédouins du désert avec de l'argent, comme avait dit je ne sais plus quel président américain, que pourquoi Dieu avait donné le pétrole aux Arabes, c'était un peu compliqué. Bon voilà, je pars un peu à droite à gauche, mais pour répondre à votre question, C'est pour vous donner l'état d'esprit, effectivement, des Occidentaux et des Américains. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est de plus en plus éduqué. Je parle autant des masses, d'ailleurs. En Europe, ce serait une autre question. Mais en dehors de ce monde occidental, le jeu se voit de plus en plus clairement. Le fait qu'aujourd'hui, l'affrontement qu'il y a entre le bloc eurasien, la Russie sur la première ligne et le bloc occidental, dévoile les lignes, remettre des lignes de séparation et que chacun y voit effectivement aussi ses propres intérêts. Alors, il faut aussi se mettre dans la place des producteurs massifs de pétrole tels que l'Arabie Saoudite. Bon, le premier producteur de pétrole au monde, hein, ce sont les États-Unis, faut-il le rappeler. Mais pour autant, plus de pétrole, donc c'est faire baisser les prix. Ça peut être à long terme, à long terme dans un calcul économique, ça peut éviter une crise économique, puisque s'il y a une crise économique, il y a moins de consommation, il y a moins de consommation d'énergie. Donc c'est moins d'argent aussi pour faire rentrer dans les caisses des pays producteurs de pétrole. De l'autre côté, effectivement, c'est aussi aider les pays occidentaux dans leur combat, dans leur guerre contre la Russie. Et on sait très bien que la Russie, dans la région, au Proche-Orient, parle avec tout le monde, et même si les rapports peuvent être rugueux, pour employer un terme diplomatique, avec certains pays, pour autant, c'est une puissance qui stabilise des fois momentanément ou qui peut stabiliser les positions des uns et des autres dans les affrontements qu'il peut y avoir. Donc aujourd'hui, les États n'ont pas d'amis, il y a des alliances et des intérêts. Et dans le cas précis, souvent des fois, des États qui se sont affrontés, comme en Syrie, l'Arabie Saoudite s'est affrontée avec la Russie en Syrie. C'est extrêmement clair, comme avec les Émirats arabes. Mais aujourd'hui, on est dans une autre période, et puis c'est pas sur le même terrain. Et je pense que beaucoup de gens voient que cet Occident, avec le pilier principal qui est l'impérialisme américain, va trop loin et qu'ils ne sont plus simplement les pantins et les vassaux bien obéissants qu'ils pouvaient l'être auparavant. Ils commencent à prendre en compte leurs intérêts, ce qui est assez amusant, alors que l'Europe, et l'Allemagne en particulier, va tout à fait dans le sens contraire, c'est-à-dire une soumission et une vassalisation encore plus grande en projetant dans les 2-3 ans de passer directement à 100% d'approvisionnement énergétique venant des États-Unis. Donc aujourd'hui, on est dans une tectonique des plaques géopolitiques et on voit les alliances se redéfinir. Et le temps d'avant, pour conclure, le temps d'avant où les États-Unis, Washington suffisait d'exiger pour qu'il puisse y avoir une réponse dans les pays dits du tiers-monde, comme on dit, c'est terminé. Et on le voit bien avec le vote à l'ONU contre la Russie. Beaucoup de pays africains ont refusé de voter ce genre de résolution. Donc on est dans un changement. Et ce changement, effectivement, il ne se passe pas comme il avait été prévu, comme je l'ai souvent aussi indiqué. Il ne se passera pas dans la négociation ou calmement. Il se passe par des affrontements, puisque les rapports mondiaux sont des rapports de force. Nous y sommes. Les lignes vont bouger. Les lignes vont encore bouger. Et j'espère pour le Proche-Orient que les ennemis d'hier, en particulier des deux côtés de la mer Persique, allons-nous dire, vont trouver effectivement peut-être des intérêts communs. Et l'intérêt commun, c'est de s'apercevoir que les États-Unis jouent de leur opposition pour pouvoir imposer leur pouvoir sur la région. Il est temps aujourd'hui que des alliances géopolitiques alternatives puissent s'épanouir afin de garantir la paix, à tout le moins dans le bloc eurasiatique, dans notre bloc.
Madame Midani, en fait, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis refusent d'ouvrir le robinet de leur pétrole pour satisfaire, si vous voulez, cette exigence du côté des États-Unis, plus précisément du côté du président américain. Joe Biden. Est-ce que ces deux pays refusent en fait de prendre une telle décision parce que une telle décision pourrait être conçue à Moscou comme un acte, si vous voulez, pro-camp occidental mobilisé actuellement contre la Russie?
En fait, je crois qu'ils essayent de garder une distance par rapport à l'Europe et par rapport aux États-Unis dans ce conflit qui oppose effectivement le monde occidental à la Russie, et ils essayent de prendre un peu plus de marge au niveau de la liberté qui est leur, jusqu'à présent, elle était vraiment très très limitée. Ils avaient pratiquement obligation de, ils prenaient leur, j'allais dire leurs ordres des États-Unis. Donc maintenant, ils essayent de prendre un petit peu de marge en voyant quand même ce nouveau monde se profiler, d'une part, et puis comme ils, en plus, ils ne sont pas les seuls en fait à prendre cette position. De plus en plus de pays du tiers-monde, comme l'a dit votre invité, effectivement, que, il y a quand même une présence mondiale, je dirais, de plus en plus importante, en fait, de, sa, de cette volonté de s'opposer bah, à un diktat purement, pur et simple américain. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point aussi, c'est que je crois que les pratiques des États-Unis, mais surtout aussi les pratiques de l'OTAN, par rapport à tous les autres pays aussi, c'est le diktat qu'on veut imposer, etc., provoque des réactions jusqu'à présent, je peux dire, importantes, même de la part de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.
Monsieur Beurre, selon Mme Midani, en fait, le point qui vient d'être soulevé par Mme Midani, les pratiques des États-Unis et de l'OTAN provoquent en fait des réactions, même, si vous voulez, celles de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.
Oui, il y a deux positions qui sont prises, mais pour moi, elles se rejoignent. Et même si, pour certains pays, ou peut-être au sein des élites de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, les deux doivent cohabiter. La première, c'est... c'est une affaire entre vous, occidentaux, laissez-nous tranquilles, ça ne nous concerne pas, ça c'est la première, le premier élément. Puis le deuxième élément qui a été indiqué, qu'on répète, et sur là-dessus évidemment nous sommes tout à fait d'accord, c'est qu'un nouveau monde se dessine. On a bien compris que nous étions passés aujourd'hui véritablement au XXIe siècle, c'est à l'heure actuelle. Et ce nouveau monde, il n'est pas encore évidemment restabilisé. Les alliances vont devoir se redéfinir. Et il est toujours bon pour un pays de ne pas se mettre à dos les acteurs que l'on voit importants et, de ce nouveau monde qui se dessine, en particulier dans ce bloc eurasiatique avec la Russie. Et la Chine en particulier. Et en cela, cette position, pour l'instant, comme vous l'avez indiqué, effectivement, ils résistent. Peut-être qu'ils vont un peu céder, mais je ne pense pas qu'ils vont céder à 100% aux exigences. Ils vont essayer d'augmenter peut-être un petit peu, ça va certainement arriver, un petit peu ouvrir un peu le robinet, mais pas autant que le voudraient évidemment les Américains pour soulager l'économie mondiale en général, qui est autour de l'énergie, et en particulier leur première colonie, qui est l'Union européenne. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, 2008, ça a été le tournant en réalité. C'est l'intervention, l'agression géorgienne contre l'Ossétie et l'intervention russe. Après, on a eu 2014, le coup d'État du Maïdan. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la Russie a dit stop, on arrête de jouer l'hypocrisie. Nous savons très bien que c'est la position occidentale telle qu'elle est. Si on n'agit pas maintenant, c'est la destruction de l'État russe. Ce pourquoi la Russie agit aujourd'hui, ce pourquoi nous sommes dans une situation qui oblige, quels que soient les pays, quelles que soient leurs précédentes, à part l'Union européenne qui est totalement soumise, mais à part leurs précédentes, on va dire, affiliations de tel ou tel bloc, à se redéfinir. Et beaucoup préfèrent jouer effectivement la neutralité et l'attentisme, ce qui est finalement peut-être la meilleure position qu'on puisse leur demander, c'est ne pas soutenir le camp occidental. On ne leur demande pas de soutenir le camp russe à la rigueur, mais ne pas participer à cette politique occidentale qui, de toute façon, ne sera pas positive pour eux à long terme. Donc on est dans vraiment une redéfinition des alliances géopolitiques, ce qui explique l'hésitation des uns et des autres, ou qui est le début pour moi d'un repositionnement géopolitique mondial. Je préciserai, je terminerai là-dessus, regardez tous les pays qui soutiennent aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine, du côté occidental, ce sont toujours les mêmes pays, ces mêmes pays avec cette politique ultralibérale et mondialiste, et tous ceux qui sont du côté de la Russie, ou du moins qui tempèrent, sont tous des pays qui résistent à cet impérialisme occidental et qui ont une politique qui s'apparente à celle de la cause des peuples et non pas à celle à la cause des marchés.
Madame Midani, très rapidement, s'il vous plaît. Assistons-nous, comme l'a dit en fait M. Bauer, à une redéfinition des alliances, si vous voulez, stratégiques, tant au niveau régional qu'international?
Cette redéfinition, elle se sent parfaitement dans les positions des différents pays. Je voudrais quand même rappeler la position du Pakistan, qui a toujours été l'allié des Américains et l'allié de l'Arabie saoudite aussi, qui a effectivement déclaré « nous ne sommes pas vos valets à tous les pays occidentaux ». Donc il y a ce mouvement effectivement qui se généralise et qui fait tache d'huile et qu'en fait c'est important. Les pays africains pareil, donc je trouve que c'est très vrai et on espère que cette distance ou cette résistance va en grandissant, parce qu'il y a des pays qui montent et des pays qui descendent. Et on voit bien que l'économie américaine comme l'économie européenne est pratiquement en train de s'écrouler, ainsi que l'influence aussi des Américains, la volonté. Il y a aussi une volonté de faire des échanges dans les monnaies nationales, et donc refuser aussi cette annexion systématique au dollar.
Merci
ce
beaucoup.
Que justement la Russie et la Chine ont commencé à faire.
Merci infiniment, Madame Aïssa Armidani, d'avoir été avec moi pour cette émission par Skype depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à vous, Monsieur Fabrice Beurre, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Moscou. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
La Russie revient à l'étalon or ou la fin du pétrodollar. Le gouvernement russe a décidé d'adosser le rouble à l'or. Cette décision va à terme ébranler le pétrodollar et achever l'empire anglo-américain. Au 19e siècle et dans la première partie du 20e, le système financier mondial fonctionnait sur l'étalon or. Ce système s'est effondré avec l'éruption de la Première Guerre mondiale et les tentatives de restauration dans les années 1920 ont échoué, entraînant la rupture des relations commerciales et financières internationales dans les années 1930 et un retour au troc dans certains cas. Un nouveau système de financement international a été conçu lors de la conférence de Bretton Woods de 1944, où il a été déterminé que le dollar américain fonctionnerait comme monnaie mondiale, à condition que les avoirs en dollars puissent être achetés par de l'or autour de 35 dollars l'once. Le système de Bretton Woods a pris fin en août 1971, en raison des déficits croissants de la balance commerciale et de la balance des paiements, reflétant le début du déclin économique des États-Unis depuis sa domination absolue d'après-guerre. Le président américain Nixon a unilatéralement retiré l'adossement du dollar américain à l'or. Depuis lors, l'économie mondiale a fonctionné entièrement sur la base du dollar américain en tant que monnaie sans contrepartie, une monnaie qui n'a aucun soutien par l'or ou toute autre marchandise incarnant le travail, la source ultime de valeur dans le système capitaliste. Devant le cours du rouble qui s'effondre et l'inquiétude des populations, la Banque centrale russe a relevé le taux directeur à 20% pour réduire l'inflation. Mais ce n'était pas suffisant, vu que la principale source de ces turbulences est la fuite des capitaux. Le gouvernement russe a également interdit le paiement des dettes en devises occidentales, dollar-euro. Pour en rassurer les Russes,
les talents or va permettre aux agents économiques du pays de faire leurs échanges en or. Dans cette veine, la TVA sur les transactions d'or a été supprimée. D'un côté, le citoyen lambda peut acheter de l'or et sécuriser son épargne libellée en roubles, de l'autre, l'État. Le rouble associé à cet étalon va, à défaut de monter, voire réduire sa dégringolade. Néanmoins, cette mesure, plutôt inattendue, apparaît plus une mesure de rétorsion, une attaque directe contre les USA et leur pétrodollar. Le couplage du rouble à l'or représente un tournant majeur, une inauguration du monde multipolaire économique. Tous ceux qui ont tenté cela jusqu'ici ont vu leur pays dévasté, eux-mêmes éliminés physiquement. Cette fois-ci, c'est la Russie, grande à nouveau et puissante de surcroît. La Russie, c'est 12% du marché mondial du pétrole, 15% pour les produits raffinés, 20% pour le gaz naturel, sans compter le GNL, le blé, le platinium, le titane, l'aluminium. L'action d'un pays aussi important sur l'économie mondiale aura à terme un effet dévastateur pour le pétrodollar. Nous allons assister à la formation d'un grand marché eurasiatique débarrassé du dollar, Chine, Russie, Inde, Iran, pouvant même exiger de ses partenaires économiques de payer ou d'être payés hors dollar et euro. Il pourrait être rejoint à terme par les pays du sud global comme la Turquie, l'Indonésie, le Brésil, l'Argentine, le Mexique, l'Afrique du Sud, le Nigeria ou encore le Maroc, l'Algérie et l'Égypte. De plus, cela constituera une pression énorme pour l'Arabie saoudite, à qui la Chine exige de pouvoir payer ses importations de pétrole en yuan. Ce que cette dernière a jusqu'ici refusé, mais jusqu'à quand? Que va faire l'Occident? Pour savoir ce que vont faire les élites mondialistes, il faut déjà savoir ce qu'elles font actuellement. Premièrement, elles s'attellent à couper l'Europe, gros client de gaz russe et de produits manufacturés chinois, de la Russie et de la Chine, en détruisant la classe moyenne. C'est le Great Reset. Ensuite, elles interdisent progressivement l'usage des énergies dites fossiles au profit des énergies pseudo-renouvelables. Pour ce faire, il faut que le pétrole et le gaz coûtent extrêmement cher. Tellement cher pour que les énergies renouvelables deviennent enfin économiquement viables autrement que par d'énormes subventions. C'est le Great New Deal. Alors, que vont-elles faire? Eh bien, regardez ce qui se passe actuellement en Ukraine, vous aurez une bonne idée. Pour information, l'offensive russe a précédé de 24 heures celle de Kiev sur le Donbass. C'était donc une attaque préventive. Souvenez-vous de ce qu'a dit Poutine à propos de frapper le premier quand le combat devient inéluctable. Il y a actuellement 120 navires de combat des pays de l'OTAN dans la mer Baltique. À ce stade, tout peut arriver. L'argent dans l'économie capitaliste n'est pas seulement un moyen de financer les transactions commerciales et financières, c'est aussi une réserve de valeur. Étant donné que le dollar fonctionne comme une monnaie sans contrepartie, cette fonction de réserve de valeur a été maintenue par une sorte de fiction ou de circularité. Le dollar est très courtisé parce qu'il est considéré comme une réserve de valeur et c'est une réserve de valeur parce qu'il est nécessaire comme moyen de paiement pour le commerce international et les transactions financières. Aujourd'hui, les fondements de ce système qui a fonctionné pendant les 50 dernières années sont remis en question. Comme l'a dit l'auteur du Wall Street Journal, John Zinro, tout l'artifice de l'argent en tant que réserve universelle de valeur risque d'être érodé par l'interdiction d'exportations clés vers la Russie et les boycotts du type annoncés par des sociétés comme Apple et Nike. Si les soldes en devises deviennent des entrées informatiques sans valeur, alors il y aura un recours à l'or. Et il a noté que l'un des obstacles à la volonté de la Chine d'internationaliser le renminbi était la crainte que l'accès à celui-ci risque toujours d'être révoqué par des considérations politiques. Il est maintenant évident que jusqu'à un certain point, cela est vrai pour toutes les devises. Sa conclusion était la suivante. Pour une fois, le vieux trope n'est peut-être pas mal avisé. Acheter de l'or. de nombreuses banques centrales mondiales le feront assurément. Tout comme la guerre militaire de l'OTAN menée par les États-Unis contre la Russie marque une nouvelle étape dans les relations géopolitiques, faisant directement planer la menace d'une guerre mondiale, son maniement de la finance comme arme a soulevé toutes les contradictions au cœur même de l'économie capitaliste, y compris au sein de l'ensemble du système monétaire et de valeurs.
Thank you.